de seconde à faire. Et voilà, nous irons en tir de barrage grâce à Caden Primo, Danny.
Wow.
C'est parti pour match.
Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à ce 15e épisode du balado Bon Match. Salut Danny.
Ça va-tu vite, hein? 15? On est déjà 15. Rendu à 15, Martin.
15, déjà. Ça on a franchi le cap de la mi-saison, déjà.
Ouais.
on rappelle aux gens que lorsque la saison se conclura, Danny, nous aurons eu 26 épisodes de Bon Match. Puis, on vous convie déjà pour les 26 autres de l'année prochaine. On va être là. On va être là. Ça nous fait grand plaisir à part ça. Danny, date limite des échanges. Le Canadien a pris des décisions importantes le week-end dernier. En fait, vendredi, le 8 mars dernier, des décisions qui ont donné droit à une déclaration très intéressante du capitaine de l'équipe qui a peut-être même passé un peu inaperçu samedi matin. On va revenir là-dessus. Et les décisions qu'est-ce qui en découle justement de cette décision prise de ne pas laisser partir des vétérans importants dans l'équipe? Pourquoi ils ont fait ça et quel impact ça aura sur la suite des choses? Évidemment, Danny, on va traverser un petit peu les frontières de Montréal et du Québec pour aller dans la Ligue nationale.
Oh oui.
Les perdants, les gagnants, parce qu'il y en a là-dedans, là, des perdants et des gagnants lors d'une
c'est
date
sûr.
Limite des échanges. Alors, on va essayer d'explorer justement ensemble qui a fait des bons coups, qui en a fait de moins bons, puis qu'est-ce que ça peut donner comme perspective. On va également parler de la montée de l'aile de John Tortorella. Est-ce que il a manqué à sa responsabilité d'entraîneur envers ses joueurs, envers son équipe, en étant comme ça peut-être un petit peu égoïste et en attrapant deux matchs de suspension en dirigeant une équipe qui essaie de se rendre et de se qualifier pour les séries? Alors, Danny, d'emblée, je commence avec ça parce que samedi matin, avant le match contre les Maple Leafs, le Canadien avait eu congé lors de la journée limite des transactions. Il y a que la direction de l'équipe, puis Martin Saint-Louis probablement qui travaillait. J'ai trouvé que c'était une bonne idée, d'autant plus que l'équipe était arrivée tard la veille de la Caroline. Mais c'était une bonne idée de garder tout le monde à la maison pour cette journée-là. Mm-hmm. On a eu donc l'occasion d'avoir les réactions des joueurs du Canadien au départ de Jake Allen, mais aussi au fait que Savard et Matheson sont restés. Il y avait moins de rumeurs entourant Matheson, mais on sait très bien, Danny, que si on avait dit que Matheson était disponible, ça aurait peut-être mordu, même si Matheson gagne un peu plus de 4 millions de dollars par année. Toi, là, avant de parler de la déclaration du capitaine par rapport à ça d'emblée, là, qu'est-ce que ça t'a donné comme message? Qu'est-ce que ça envoie comme message qu'on ait gardé ces deux-là?
Ben écoute, c'est la continuité parce que ça te prend des bons vétérans pour faire avancer ton projet. Puis c'est un projet de développement. Là-dedans, il y a pas juste du hockey, il y a tout ce qui entoure la bienveillance autour d'une équipe. Des bons leaders, des bonnes personnes. Tu sais, tu parles de deux gars, là, des deux super coéquipiers. Mm-hmm. Deux très bonnes personnes,
deux produits
locaux, exactement. Fait qu'à un moment donné, c'est beau de faire des transactions pour aller chercher des choix de repêchage. Quand tu sais pas ce que ça va te donner, tes choix de repêchage,
ouais.
Quand même, tu veux maintenir ce que tu es en train de bâtir, tu veux aider ton entraîneur, tu veux aider tes leaders de l'équipe, ben, tes vétérans de qualité, t'en gardes, là.
Et en plus, Danny, parce que ce que Suzuki a dit essentiellement, parce que moi, je lui posais la question suivante. Est-ce que le fait que vous avez décidé de garder ces deux-là, que la direction de l'équipe a décidé de garder ces deux joueurs-là, est-ce que ça envoie un bon message sur le travail que vous autres, le groupe de jeunes leaders, est en train de faire? Et sa réponse, ça a été, ben là, on commence à avoir pas mal de choix de repêchage, là. Mm-hmm. Puis on commence à avoir pas mal de prospects. Puis dans notre précédent balado, le 14e épisode, on a parlé de ça un peu, Danny. On a dit ils ont les mains pleines à la défense, puis ils commencent à être bien garnis au niveau de ces joueurs de défense en devenir, puis ils auront du matériel à transaction. Alors, je trouve ça intéressant, la déclaration de Suzuki, parce que c'est le capitaine. Puis là, lui, il est en train de dire, OK, là, nous autres, là, on aimerait ça s'arranger avec les gars qui sont là parce que des jeunes, il y en a en masse, puis on pense que si ces deux vétérans-là étaient partis, on aurait eu de la difficulté à avancer. probablement que ces gens-là sont tous d'accord, parce que Kent Hughes et Jeff Gorton, ils les ont pas échangés, Matheson et Savard, ultimement. Mais je trouve ça intéressant que le capitaine ait l'audace, dans un marché comme Montréal, de se tenir comme ça, puis de répondre, OK, on a assez, puis on a besoin de ces gars-là pour avancer, puis il faut avancer.
Ben écoute, lui, là, dans le fond, là, il parle au nom du vestiaire. Tu sais, souvent, là, t'as le directeur général parle au nom de l'organisation.
Oui.
L'entraîneur parle au nom du vestiaire, mais d'une façon très différente, parce qu'il est un petit peu à cheval là, sur cette fameuse ligne entre l'organisation et le vestiaire. Mais le capitaine d'équipe, lui, parle en fonction du vestiaire. Lui, c'est vraiment le... Lorsqu'il parle, c'est le pouls du vestiaire que tu as. Donc, c'est très important ce qu'il a mentionné, parce que ça dit, OK, vous nous demandez de faire ceci, cela, nous, on embarque dans l'affaire, on embarque dans le projet, on suit notre coach. Mais là, il faudrait quand même pas vider l'équipe, là. Parce que là, à un moment donné, puis on va en parler un peu plus tard, mais tu vois que les organisations que... Lorsqu'on a enlevé des pièces maîtresses de leur formation, je suis pas sûr que ça a envoyé bon message dans le vestiaire, évidemment. Les directeurs généraux le savent.
Ouais.
Mais il y a comme une ligne assez mince là, que tu dois réussir à chevaucher pour garder ton équipe en santé, motivée. Puis quand je dis en santé, là, je parle en termes de d'esprit d'équipe, d'esprit de groupe. Moi, je pense que c'est vraiment important. Ce que Nick Suzuki a dit, c'est vraiment important.
Ouais, puis à quelque part, Danny... Je veux qu'on parle un peu des derniers résultats de l'équipe. Quand ils affrontent une bonne équipe, puis qu'ils se battent jusqu'à la fin, à part le match contre la Caroline, qui là, leur ont un peu échappé, la Caroline a vraiment mis le pied sur l'accélérateur, ils ont été très disciplinés en plus en troisième, puis ils ont gagné 4-1. Mais à part ça, les autres matchs du Canadien, c'est prolongation contre les Panthers, ils perdent, prolongation contre le Lightning de Tampa Bay, ils perdent, ils gagnent en prolongation contre Nashville, la Caroline, je le disais, puis en fin de semaine, ils perdent par un but seulement contre les Leafs de Toronto là, à la régulière. Puis jusqu'à la fin, ils ont donné un show, puis ils ont donné une opposition à Toronto. Il y a des gens qui vont regarder ça, puis qui vont dire, ouais, mais c'est correct là, t'sais, d'avoir gardé deux vétérans, puis on est conscient, puis là, c'est correct de se battre, mais c'est parce qu'on les perd pareil. On les perd par un but. Puis là, tu me vois venir, là, il y a des gens qui vont se dire, mais c'est quoi la différence entre terminer 20e, 21e, 22e, peut-être 23e, ou de terminer 29, 30, 31, puis de ramasser un des quatre meilleurs joueurs disponibles au repêchage. C'est quoi, Danny, la différence? Où est rendu le Canadien là?
Ben dans le vestiaire, ça fait aucune différence. Là. Les joueurs s'en foutent de ça. Pour eux, c'est de la bouillie, là.
Les joueurs se foutent du fait que on est mieux de terminer 28, 29, 30. C'est ce que tu veux dire. Là.
Ben absolument, parce que les joueurs, eux, là, leur réalité, c'est gagner des matchs. C'est jouer, c'est bâtir quelque chose, c'est gagner des matchs. C'est sentir que l'adversaire devant eux, il les respecte. Quand t'embarques sur la patinoire, tu sais que tu vas avoir un match. Ils ne passeront pas sur le corps comme ça. Là. On a un match. On est capable de gagner. On est capable de jouer des matchs puis gagner contre n'importe qui. Ça, là, c'est essentiel. Écoute, tu es en train de bâtir quelque chose avec le Canadien. Tu as besoin de savoir que tes joueurs clés se bâtissent une fierté à travers pas juste l'effort, mais aussi des résultats. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si tu finis 29 une année, tu veux pas finir 30 l'année d'après. Tu veux pas finir 29 encore. Tu veux finir 25. Tu veux finir 20. Tu veux rentrer dans une série. Donc, d'une année à l'autre, tu veux sentir une forme de progression. Et ça, la première place où ça, c'est dans les résultats, c'est au classement.
Alors, pour toi, c'est plus important de faire ça, de cultiver quelque chose de gagnant à l'intérieur de ton équipe, que de ramasser le troisième, quatrième meilleur joueur disponible plutôt que le 7-8e joueur disponible. C'est bien ça?
Ben oui, parce que à un moment donné, t'en as pas de garantie de toute façon. Tu sais, t'en as pas de garantie.
À moins que tu aies le premier au total.
Ah ben là, c'est sûr
à
que...
À moins que tu aies le premier au total. Mais là,
ce qui est pas la réalité du Canadien, là.
Non, puis je pense, honnêtement, là, tu sais, il y a les Rangers qui ont gagné une loterie, mais de toute façon, je dirais aux gens que depuis que les Rangers ont gagné la loterie. Lafrenière a été changée, la loterie d'ailleurs, là. Puis cette année-là, c'est Détroit qui aurait dû gagner la loterie. Mais on a fait en sorte que vraiment les derniers de classe puissent davantage gagner la loterie. Alors, ça renforce ça un peu, Danny, à quelque part.
Ben oui, c'est sûr. Puis le système, il est correct comme ça. Là, on l'a placé encore avec des probabilités encore plus élevées pour les équipes de queue, là, les dernières équipes. Puis c'est bien. Moi, je trouve que c'est correct. Tu sais, ce que tu veux éviter, c'est de voir les équipes se laisser descendre volontairement.
Oui, ouais, comme ça, c'est déjà vu.
Ce qui était une réalité, années 80, puis même
90,
avant.
90, peut-être.
Oui. Non, mais c'était ça. Et alors, en bâtissant cette loterie, on a tenté de contrecarrer cette stratégie-là, puis je pense avec succès. Fait que, non, écoute, c'est correct, là. Puis moi, je trouve que des matchs perdus par un but, ça a une signification, Martin, parce que quand tu perds par un but, quand tu pousses l'adversaire à la limite, t'es dans le coup, ça veut dire que tu compétitionnes. Ça veut dire que tes matchs, t'es là, t'es joué, tu compétitionnes. Puis ça, pour moi, c'est extrêmement important.
C'est important d'instaurer des habitudes dans une équipe, Danny, puis que Caulfield, Suzuki, Kirby Dack, qui va se joindre à ça quand il va être soigné, que Montembeau, tout ce futur noyau-là, tout ce bon noyau de jeunes joueurs-là, ait justement ses habitudes de se battre jusqu'à la fin.
Ben oui, c'est l'essence même de ce que tu veux bâtir, c'est de un sens de la compétition, de la fierté, de l'organisation. Lorsqu'on parle d'organisation, lorsqu'on parle de l'équipe, c'est les joueurs. C'est la même affaire quand on dit, le gouvernement devrait faire ci, devrait faire ça. Mais ouais. Le gouvernement, c'est vous autres, tu sais, c'est nous autres, ça. Le gouvernement. Fait que c'est l'équipe, c'est le Canadien, là. Mais les joueurs, ils regardent leur logo, puis c'est eux. Pour eux autres, là, c'est dans leur tête, là, puis il y a quelque chose de très puissant avec aussi l'ascendant de la culture, puis du passé, puis tout ça, d'une organisation. Tu sais, quand t'as de l'histoire, là, tu sais, les gens qui sont en place, ils s'assurent de protéger ça, c'est important. Alors, pour le Canadien, d'être des compétiteurs, c'est l'essence même de ce qu'ils vont devenir plus tard.
Deux, trois petites affaires là-dessus pour terminer ce sujet-là. Matheson, en étant le meilleur joueur sur la glace samedi soir contre les Maple Leafs de Toronto, a aussi répondu à ce message-là, Danny. Te garde, on te garde dans l'équipe, on continue de croire en toi puis de compter sur toi, puis lui, il répond.
Ben écoute, premièrement, là, au départ, on sait une chose. Lui, là, il connaît la saison de sa vie, là, une saison de rêve.
Il va, si ça va bien, là, jusqu'à la fin, il va flirter avec les résultats de Piqué Subban, puis on l'a dit dans un épisode précédent de Bon Match, il va aussi flirter un peu, avec les bonnes saisons de Markov en carrière.
Oui, puis là, je te parle, tu regardes là, dans les gars qui sont avec lui, là, on parle des 10-12 premiers de la Ligue, il est 11e actuellement parmi les défenseurs de la Ligue nationale à 46 points, à égalité avec Morgan Riley, mais Riley a joué moins de matchs, donc il est en avance sur lui. Mais quand on y regarde de plus près, là, c'est .72 points par match, t'es dans l'élite de la Ligue nationale. Ces gars-là coûtent 8 millions, 9 millions, 10 millions par année. Là. Et lui, là, c'est un gars qui coûte 4 millions par année aux Canadiens de Montréal. Puis il reste du temps à son contrat. Fait que c'est sûr et certain qu'il y a des équipes, ils regardent la situation du Canadien, ils disent, ben peut-être qu'on est prêt à payer, nous autres, pour avoir un gars comme ça, parce qu'on va sauver de l'argent, deux, on sait qu'on a besoin d'un joueur comme lui, qui est capable de prendre des minutes qu'il prend dans toutes les situations de jeu. Il a démontré à tout le monde là, qu'il faisait partie de l'élite. À 25 minutes en moyenne par match, là, il fait partie des joueurs les plus utilisés de la Ligue nationale. Dalin est avec lui à 25 minutes. Tout ça, t'en as pas beaucoup qui jouent 25 minutes en moyenne par match. Là. C'est énorme.
Il y a un message important aussi qui est envoyé, on l'a dit, par le capitaine. Moi, ce que j'aime là-dedans, Danny, c'est que le capitaine, il montre qu'il y a du coffre. En faisant une déclaration comme celle-là, en parlant au nom de ses coéquipiers, comme tu l'as dit, c'est pas un marché facile à Montréal. Quand tu parles, il faut que tu répondes. Tu sais, parce que tu vas te le faire remettre sur le nez, puis ça va être le lendemain. Ça sera pas dans 3 mois, ça va être le lendemain. Et Nick Suzuki a répondu aussi sur la patinoire. Il répond depuis le début de l'année. Puis le dernier point par rapport aux décisions de l'équipe de ne pas échanger certains vétérans à la date limite des échanges, c'est les propos de Kent Hughes. Parce que à un moment donné, Kent Hughes a presque dit, ben, je suis un peu tanné de vendre. Puis pourtant, comparativement à Pierre Dorion chez les Sénateurs, qui a fait ça pendant 4-5 ans, ça fait pas si longtemps que ça que Kent Hughes et Jeff Gorton sont dans la position de vendeur. Mais il a pris la peine de dire, je suis un peu tanné, puis j'ai hâte d'être de l'autre côté de la clôture. Puis il a presque dit, tu sais, plus tôt que vous pensez. Dans le sens où peut-être que cet été, sans dire que le Canadien va sacrifier des morceaux pour aller chercher des gars de 30 ans, ça se peut qu'on active la machine un petit peu plus.
Ben, je serais pas surpris de ça, mais moi, je m'attends à une autre année où on va être encore dans le à mi-chemin, là, les mi-figues, mi-raisins. On va être encore à mi-chemin. On va progresser.
Au niveau des résultats, là, que tu parles.
Je parle au niveau des résultats.
Décisions, est-ce que ça va être ça aussi?
Ben, au niveau des décisions, ça va dépendre d'où on se retrouve à la même période l'an prochain.
Ouais.
Tu sais, on n'a pas de boule de cristal, là. Il y a une chose qui est sûre, c'est que on regarde ce qui se passe dans l'Est. Il est pas fou, là. Tu sais, le directeur général, il regarde Ottawa, il regarde Détroit,
ouais.
Il regarde évidemment Buffalo. Puis là, je fais attention comme je te dis, parce que là, Buffalo, eux autres, ils m'ont tellement fait mentir souvent. Mais, ouais. Mais il reste que, tu sais, je regarde ce qui se passe actuellement, puis eux autres, là, avec Luukkonen devant le filet, Buffalo est dans une situation différente, là. Et je le dis très candidement, là, c'est une équipe qui va être en progression.
Okay.
J'en suis assurément convaincu. Donc, lui, il regarde des affaires aller, puis il dit, là, je peux pas trop être à la traîne de ces organisations-là, parce que je vais rester, tu sais, ça va être difficile de gagner dans ma division si je m'améliore pas. Il faut que je trouve une façon, là. C'est pas juste le temps, Martin, là. À un moment donné, ça prend des éléments.
Ben, puis là, il va y avoir un changement de garde dans la division Atlantique, parce que, peut-être pas tout de suite pour les Panthers de la Floride, mais ça reste une équipe, les Panthers, qui sont prêtes à gagner parce que ils ont plusieurs joueurs dans cette équipe-là qui ont déjà 500 matchs et plus en carrière dans la Ligue nationale. Le Lightning, on regarde ça, puis avec le départ possible de Stamkos d'ici les prochains mois, on se dit que là aussi, il y a peut-être un cycle qui va arriver. Edmund n'est plus une recrue. Il risque d'avoir comme un genre de renversement, là. C'est que les équipes qui sont en bas vont bientôt aller en haut, puis ceux qui sont en haut vont bientôt être obligés d'aller en bas. C'est un peu inévitable, tu sais. Puis les Sénateurs, à un moment donné, ça va arriver. Puis t'as parlé des Red Wings. Les Red Wings, là, c'est un noyau d'équipe de vétérans, là. C'est pas... Ils ont quelques jeunes, mais le noyau de l'équipe, ce sont des vétérans.
Ouais, ils ont un mélange. Eux autres sont plus prêts à... Ils frappent plus à la porte que les autres, là,
en termes
de l'âge de leur noyau. Tu fais bien de le mentionner, c'est vrai. Mais il reste que, quand on regarde les équipes qui sont en poussée vers le haut, ben, le Canadien est en bas, là. C'est sont derrière ces équipes-là. On est obligé d'admettre ça. Donc, moi, comment je vois les choses par rapport à certaines équipes, c'est que quand tu as des bons joueurs, même si ton noyau, même si ta périphérie, ta profondeur est pas là, si tes bons joueurs sont dominants, tu vas rester en haut. Tu sais, prends Boston, là.
Oui.
Boston, là, si t'arrêtes, tu regardes leur alignement,
mm-hmm.
C'est leurs joueurs clés qui font la différence. Après ça, là, c'est, sont corrects. C'est que tu as une bonne production en périphérie,
mm-hmm.
Mais aussitôt que t'enlèves Pasternak, t'enlèves Marchand, whoops! C'est sûr, toutes les formations sont comme ça, mais c'est encore plus vrai pour certaines équipes.
Oui.
Et je pense que ces équipes-là, ben, ils peuvent rester dans le haut s'ils sont en mesure, puis, premièrement, s'ils ont bien repêché, s'ils ont des jeunes qui peuvent entrer
ça,
pour prendre des jobs, mais pas nécessairement les grosses jobs, là, tu sais, prendre du travail de soutien puis d'être efficace. Puis, tu sais, on rend pas souvent crédit à Toronto pour ça, mais Toronto, là, Tu sais, quand tu regardes, là, Hyman, après ça, Bunting, après ça, là, c'est nice. Après ça, c'est en rente, là. L'autre soir, je regardais McMahon. Je disais, tu sais, c'est un gars qui a joué des mineurs. Il joue, puis écoute, il a fait un bon travail contre Canadien. Ce genre de joueur-là qui rentre dans ton alignement te permet de garder, de rester à flot parce que tes joueurs clés sont tellement dominants que tu restes dans le groupe de tête. Alors, est-ce que les équipes qu'on vient de nommer, Floride, Boston, Toronto, puis Tampa Bay, est-ce qu'ils vont être à ce point affaibli qu'ils vont descendre au classement derrière le Canadien? Je pense pas. Je pense que le Canadien a besoin d'être encore meilleur dans son noyau dur parce qu'après Nick Suzuki, c'est un grand point d'interrogation. Puis ça, on est bien obligé de l'admettre, là.
Oui. Et en ce sens-là, Danny, dernière page du chapitre canadien dans cet épisode de Bon Match, le premier choix du Canadien l'été prochain, là. On peut commencer à réfléchir à ça un peu, là. Directeur général, lui, il dit, je suis tanné, là, un petit peu, là. Je suis déjà tanné d'être le vendeur, là. Est-ce que tu penses qu'au repêchage, il va être acheteur avec ce premier choix-là? Est-ce que le Canadien pourrait être tenté, je répète encore une fois, pas d'aller chercher un gars de 30 ans, mais peut-être utiliser leur premier choix, celui qui va être vraisemblablement dans le top 10 du prochain repêchage, si on a une possibilité d'aller chercher un gars dans la jeune vingtaine qui va leur permettre d'acheter un an ou deux de plus. Est-ce que vraiment le Canadien est beaucoup plus prêt de faire ça que de repêcher le joueur puis d'attendre un 2-3 ans avant qu'il soit prêt?
Il est beaucoup plus prêt de faire ce qu'ils ont fait dans les deux dernières années. C'est-à-dire de combiner choix de repêchage et potentiellement des joueurs parce qu'ils ont des défenseurs de trop, là.
Oui.
Donc, ton premier choix puis un défenseur pour un ailier, là, un jeune ailier, encore une fois, c'est parce que là, on regarde nos hooks, tu dis, est-ce que c'est vraiment un deuxième ou c'est plus une troisième ligne? Bon, on a toutes ces questions-là à se poser.
Oui,
on
sait que c'est plus comment un ça va évoluer, puis tout ça.
Exactement, là, bon. Martin. Voilà. Puis là, Dak, il faut qu'il soit en santé, là, que oui, Dak, tu sais, on le sait, c'est un très bon joueur, mais il faut qu'il soit là. Mm-hmm. Donc, mais c'est clair que quand tu regardes l'alignement du Canadien, tu regardes leur ce qu'on appelle le depth chart, tu regardes ce qu'ils ont dans la profondeur de l'organisation, en attaque, à l'aile, des gars qui peuvent entrer puis faire une contribution. C'est exactement, c'est beaucoup
trop
mince.
C'est trop mince pour leurs ambitions, Danny.
Exactement. Alors, eux, là, dès l'an prochain, dès le repêchage de cette année, puis on invite les gens à nous suivre, on est là, puis on c'est des affaires importantes pour nous autres. C'est sûr que le Canadien va tenter de troquer un ou des choix de repêchage et des jeunes joueurs qui font partie de l'alignement actuellement, particulièrement à la défense, pour bonifier leur situation en offensive, particulièrement à l'aile. Puis s'il y a une position, c'est plus à l'aile gauche.
Alors, Kent Hughes était vendeur vendredi passé. Il risque d'être acheteur au repêchage. Alors, c'est à suivre. Danny, on va aller ailleurs dans le circuit maintenant parce que on a promis aux gens qu'on parlerait de ceux qui ont bien fait et moins bien fait à la date limite des échanges. Mais avant, on va aller à Philadelphie. Danny, samedi dernier, l'entraîneur John Tortorella s'est fait mettre dehors. Mais il n'a pas voulu s'en aller. Les Flyers étaient en train de se faire déclasser par le Lightning de Tampa Bay. Le Lightning a marqué 4 buts en première période. Tort s'était peut-être plus fâché après son équipe qu'après les arbitres, mais c'est après les arbitres qui a déversé son fiel. Tellement, puis c'est rare qu'on voit ça dans le hockey, tellement que les arbitres ont dit « OK, Tort, tu t'en vas te refroidir dans ton bureau, c'est fini, ton match est fini, bye. »
C'est terminé.
Et là, lui, il a dit « Non, je passerai pas de même, je reste là. » Puis là, on voit, on est capable de lire sur ses lèvres, il les envoie promener. Non, tiens, hey, ben va chez le bonhomme, toi, là. Non, je reste ici. Puis là, les caméras s'en vont dans la loge du propriétaire, puis lui, il trouve ça drôle, puis il trouve ça intéressant. Puis il a tellement trouvé ça drôle, Danny, que les 50 000 piastres d'amende, puis les 2 matchs de suspension, il a banalisé ça en disant, « M'a payé la facture, mon entraîneur, il s'est tenu debout, puis je suis fier de lui. » Je comprends des propos comme ça, mais ça, on sait que la Ligue nationale aime pas ça. La Ligue nationale aime pas que les propriétaires viennent prendre des positions publiques quand la Ligue a décidé quelque chose. Alors, juste pour ça en commençant, parce qu'après je vais aborder d'autres choses là sur Torts, mais juste pour ça, Danny, le propriétaire va peut-être s'en faire parler à la prochaine réunion, n'est-ce pas?
Ah, ben c'est sûr que les comportements déviants là qui sont pas sont pas souhaitables.
Les comportements rebelles. On n'aime pas les rebelles.
On n'aime pas les rebelles, c'est sûr. Et c'est sûr qu'il va s'en faire parler, mais en bout de piste, là, c'est l'organisation. Les Flyers de Philadelphie, c'est une organisation puissante. Ils ont de l'argent.
Oui. Ben, dans beaucoup la
Ligue
d'influence.
Puis dans la Ligue nationale, ils emmènent large. Ils sont capables de faire osciller l'aiguille de leur côté. Là, ils sont capables de faire pencher la balance de leur côté.
Moi j'ai eu l'impression de revoir M. Snyder. Mm-hmm. Quand j'ai vu le nouveau propriétaire là, dire ça, j'ai dit, ça, c'est le genre de choses que M. Snyder, qui est décédé aujourd'hui, là, Ed Snyder, j'ai eu l'impression que de le revoir, lui.
Oui, puis là, à un moment donné, quand tu vois la situation, la façon dont la situation se déroulait, là, tu regardes le match, tu dis, bon, mais le match s'en va nulle part. Tout de suite, après le but en avantage numérique, on sent que, je sais pas, ils sont pas dans leur assiette, là, ça marche
ouais.
pas. Là.
Ouais.
Puis tu sais, la situation devant le filet... des Flyers est différente depuis que Carter Hart est parti. Là. C'est ouais. sûr que tu as moins de stabilité devant le filet.
Puis il y a moins de compétition pour celui qui est là aussi.
Larson, ouais, pour Samuel ouais. Larson. Ben oui,
c'est bon, il est bon, mais il avait peut-être besoin jeune. De la compétition de l'autre.
Eh oui, c'est ça. Fait que ouais. on essaie de faire jouer les deux gardiens, tout ça. En tout cas, le résultat, le net-net, c'est que il y a de l'instabilité là. Donc là, à un moment donné, tu veux changer le momentum. Fait que c'est quoi la vieille école? On envoie les gars, puis ça se bagarre. Puis là, ça brasse. On essaie ouais. de changer le rythme du match.
Ouais, mais
ça fonctionne pas.
Ouais.
Et ça fonctionne pas. Fait que là, tu vois que Tortorella, lorsque, tu sais, il cherche simplement, lui, à changer la donne. Moi, ce que j'ai pas compris, ouais. c'est au moment où, tu sais, qu'il se fasse mettre dehors, ça arrive, là, c'est,
ouais.
mais qu'il veuille pas sortir de l'arrière ouais. du banc. Ouais. C'est là où tu dis, non, mais c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi ben, tu agis de la sorte? Qu'est-ce que tu essaies d'envoyer comme message à tes joueurs à travers
ben
ça?
Parce là,
c'est sûr qu'il parle à ses joueurs, il parle pas, il s'en fout de l'arbitre, là, il est ben en train oui. de parler à ses joueurs. Là.
Les deux arbitres étaient des boucs émissaires. Mais tu sais, au baseball, Danny, il y a 162 matchs. Tu joues à tous les jours. Le seul jour où tu joues pas, c'est quand tu voyages habituellement. Tu sais, le lundi, ça joue pas. Tu prends l'avion, puis tu te promènes en avion le lundi. Alors, au baseball, chaque jour suffit sa peine. Donc, un gérant qui sort de l'abri, puis qui s'en va en guirlandais à un arbitre, puis qui envoie juste un petit peu de sable, puis qui lui dit des choses profanes, puis peut-être des petits postillons avec ça, là, insultant, là. ça fait partie de la culture. Mais au hockey, quand Torts fait ça, c'est un peu comme si Sean Couturier avait sauté un gasket, comme on dit en mauvais français, puis qu'il avait frappé quelqu'un de l'autre bord, puis qu'il avait pris deux punitions, puis qu'il avait eu une suspension, puis qu'il avait crié après les arbitres. Là, on aurait dit, Sean, tu t'es pas comporté en leader. Mm. Tu sais, tu peux pas mettre ton équipe dans le trouble comme ça. C'est sûr que Tortorella, il fait pas d'arrêt, il marque pas de but, il bloque pas de lancer, puis il fait pas de passe. Mais pour un club qui se bat en série, faire ça un entraîneur, là, il a peut-être dépassé un peu les limites, Danny, quand on prend ça de l'angle où si un de ses leaders avait agi comme ça, il l'aurait pas fait dans l'intérêt de l'équipe, on lui aurait dit... T'es un peu égoïste.
Ben moi, l'endroit où je te rejoins, c'est que la sortie de Tortorella, il se fait mettre dehors, il paye une amende. Jusque-là, ça va. Là, de faire la prochaine étape, traverser la clôture, puis de d'essayer de ridiculiser les arbitres
ouais.
dans le contexte. Là, c'est sûr que lui, là, il vient de traverser une ligne dangereuse. Et
il va le payer, ça, Danny.
Il va le payer. Et c'est sûr que, admettons, là, que mettons que je suis dans les souliers de Daniel Brière. Là.
Ouais.
Ben moi, je m'assois avec mon coach.
Petit
café, là, vous dire, écoute, toi, tu sais, comprends, là, tu voulais réveiller l'équipe, tout ça, je comprends tout ça, là, tu sais. Mais ridiculise pas les arbitres. Parce que si on rentre en série, là, la dernière affaire que tu veux, là, c'est qu'ils partent avec un préjugé défavorable.
C'est ça.
La dernière affaire que tu veux, c'est que ces gars-là disent, toi, là, t'aimes mieux de rester tranquille dans ton coin.
Oui.
Puis tes joueurs sont mieux de marcher droit. C'est pas... L'humain étant ce qu'il est, là, puis même avec leur grand devoir d'objectivité et leur souci d'objectivité, les arbitres, c'est du monde comme nous autres. Okay?
Ben oui.
Bon. Fait que lui, là, il est allé une coche trop loin.
C'est ça.
Pour absolument rien. Il t'a fait mettre dehors, puis tu voulais parler, tu voulais réveiller ton équipe, tu voulais envoyer un message.
Les fleurs sont fait planter pareil, en fin de semaine.
Ils sont fait. Ben oui. La job rendue là, le travail est fait. L'extra, là, ton extra, là, qui vient peut-être de ton petit côté à toi, là.
Oui.
Ben, tu vas payer pour.
Si tu dis que ça vient de son ego.
Ben, il voulait pas aller jusque-là, mais c'est un peu ça.
Okay.
De ta petite personne, là, de placer ta petite personne en disant, mais lui, là, tu le rencontres, puis c'est sûr qu'il y a une réponse toute prête, là. C'est un intelligent, là.
Il va tout abrier ça,
puis il va avoir une explication pour tout. Mais à la fin, si son équipe, il manque 2 points pour entrer en série,
ouais.
Ben là, il n'y aura pas d'explication pour tout. L'explication va être là.
Oui, puis il vivra avec. Si au dernier match, il faut qu'il se qualifie pour les séries, parce que ça peut arriver, là, les Islanders poussent, tu sais, puis qu'il y a quelqu'un qui frappe sur le bâton d'un de ses joueurs, puis qui casse le bâton, puis qu'on regarde ailleurs, puis qu'au lieu d'avoir un avantage numérique, tu sais, c'est quand on dit que ça va se payer, là, c'est un peu là que ça va se payer, et les gens disent, mais ça marche pas de même, ça devrait pas marcher de même. Ben, c'est ça, tu viens de le dire, c'est une business d'humain. Oui. Alors, maintenant, allons chez ceux qui ont fait de bons coups, ceux qui ont fait de moins bons coups, et ceux qui ont rien fait à la date limite des échanges, et quel impact ça aura. On l'a dit vendredi dernier, les équipes qui vendent, comme le Canadien au début de cet épisode du balado Bon Match, Danny, il y a des répercussions, les décisions que tu prends pas, ça envoie un message dans ton vestiaire, chez tes partisans, ça donne une idée de ce que tu veux faire, puis de la culture que tu veux que ton équipe ait. Mais quand t'es acheteur, t'es sur le court terme. Là, tu veux gagner. Et ces décisions-là sont souvent très importantes. David Savard disait en fin de semaine, ça veut pas dire que tu vas gagner si tu vas te chercher 2, 3, 4 gros joueurs, puis que dans la même journée, tu rentres ça dans ton équipe, puis qu'il reste un peu moins de 20 matchs à jouer, ça veut pas dire que tu vas te rendre. Avant de parler des équipes, juste sur le principe, Danny, là aussi, c'est pas comme aller au supermarché puis de ramasser tout ce que tu vois dans les tablettes puis de te faire le plus gros panier possible. C'est dangereux de faire ça.
Ben écoute, là, moi, ce que je trouve, là, c'est que une fois que tu as fait ton espèce de casse-tête, ce qu'il faut, c'est trouver les pièces qui manquent à ton casse-tête. Puis c'est la délicatesse de cet exercice, elle est là. Parce que t'as des joueurs qui vont accepter de changer de rôle parce que c'est des joueurs de soutien. Puis prends l'exemple de la Floride, là. Bon. Tu rentres Tarasenko va prendre la place de Rodriguez. Rodriguez, là, il est chanceux de jouer là puis d'avoir la job qu'il a actuellement.
C'est un bon joueur de soutien, mais ça reste un joueur de soutien.
Exactement.
Tu déranges pas Kachuk avec ça.
Non, absolument pas. Ouais. Et tu améliores la situation sur le trio de Sam Bennett, qui est leur deuxième joueur de centre, qui quand même fait un bon travail pour eux.
Oui.
Alors, et Sam Bennett, c'est un joueur qui est très impliqué physiquement. C'est un gars c'est un fatigant, là.
C'est pas trop check, mais il est bon aussi.
Et lui, il va jouer avec un gars qui a de la finesse, qui est capable de marquer des buts. C'est quand même un gars qui est capable de tenir son bout. Là, Tarasenko, c'est un gros joueur. C'est pas un gars qui est à la charge puis qui va aller frapper les autres, mais il est capable de prendre soin de lui. Puis il fera pas de jeu, il va pas précipiter des jeux parce que le joueur vient le frapper. Il est capable de prendre un coup pour faire un jeu. C'est un gars. Alors là, ce qui n'est pas le cas de Rodriguez. Rodriguez, c'est de la vitesse. Alors, Rodriguez est vraiment plus un joueur troisième trio. On va être placé dans cette situation-là. Alors, voyons ce que ça va donner, mais moi, je pense que là, c'est le genre de situation, Martin, okay, où tu vraiment t'amènes une pièce dans le casse-tête, puis ça brise pas ta chimie d'équipe.
Bon, mais à Vegas, là, on a amené des pièces.
Oui.
Puis ça a été vraiment l'équipe la plus active, la plus agressive. Ils ont ramassé, je dirais, là, trois joueurs qui étaient parmi, disons, les 15 plus convoités ou les plus intéressants à cette date limite des échanges. Une couple de jours avant la date limite, vendredi, ils sont allés chercher Manta à Washington. Manta a eu une saison assez décevante, mais son profil fait de lui un joueur intéressant. Ils sont allés chercher Hurtle. Hurtle est à San Jose. On le connaît pas beaucoup dans l'Est parce que quand les Sharks se jouent, on est tous partis faire dodo. Mais Thomas Hurtle, c'est un très bon joueur.
Excellent
joueur. Et Hanifin était le défenseur le plus solide disponible. Je vais aller au Colorado tantôt, mais commençons par Vegas. Quand t'as déjà Marchessault dans ton équipe, quand t'as déjà Eichel dans ton équipe, quand t'as déjà Pietrangelo dans ton équipe, est-ce que là on s'est rempli un panier, puis là on va avoir de la misère à placer ça dans les tablettes, ou si, au contraire, les Golden Knights ont fait ce qu'il y avait à faire, puis ce qu'il y avait à faire, c'était ça.
Ce qu'il y avait à faire, c'était ça, parce que les Golden Knights sont dans une situation où ils ont plusieurs joueurs, d'après moi, qui sont maganés. Ils ont,
dont leur capitaine. Stone.
Ben, dont leur capitaine.
On va y revenir là-dessus.
Je regarde à la défense, là. Je veux dire, quand tu regardes ça, il y a des joueurs qui ont manqué beaucoup de matchs, là. Alors, Martinez a joué 45 matchs. Chez Théodore a joué 29 matchs. Mm-hmm. Que c'est des joueurs importants pour eux. Whitecloud a joué 48 matchs. Il y a des joueurs qui sont bannis, là. Quand ouais, tu as gagné la Coupe Stanley, l'année suivante, ton équipe est maganée. Donc, ça, c'est une première chose.
Puis même le gardien de but, il a été blessé aussi.
Oui, c'est vrai. Ouais. Alors, tu vois, Martin, moi, je pense que eux autres, là, sont dans une situation où ils sont contents d'avoir de l'aide. Mm-hmm. Je connais pas l'état des lieux sur le plan médical de cette formation-là, mais c'est sûr que quand tu rentres un gars de l'envergure d'Anafin, il n'y a pas personne qui va lever le nez sur lui. Puis honnêtement, là, les joueurs qui sont plus en fin de parcours avec eux savent très bien, les McNabb et compagnie, là, savent très bien que leur temps est pas mal arrivé à échéance avec cette formation-là.
Ah, du moins, l'envie d'en gagner une deuxième va être plus forte. Alors, mais tu sais, Manta, ça va prendre des minutes d'avantage numérique. Hurtle aussi, probablement. Là, il va peut-être avoir un petit peu de chambardement, n'est-ce pas? Tu sais, les gars de deuxième unité, là, Marchessault puis Eichel, les minutes baisseront pas. D'ailleurs, Marchessault, il a envoyé le message parce que dans le match qui a suivi, là, la date limite des échanges, il a marqué 3 buts. Ouais. Mais en même temps, tu sais, Danny, les gars de deuxième vague vont laisser des minutes au profit de Manta et de Thomas Hurtle.
Ah ben oui, ça c'est sûr. Tu sais, ben moi je tu sais, dans le cas d'Hurtle, on va attendre là, parce que là la situation est en ce qu'il est, lui est sur la liste des blessés à long terme là. Les autres, ouais, c'est ça. Okay. Mais dans le cas de Anthony Manta, c'est sûr que lui, c'est sûr, Martin, que c'est un gars qui arrive puis il prend une place de choix. Ouais. Parce qu'actuellement, là, en raison des blessures, il y a des jeunes joueurs qui jouent, dont Brandon Brisson qui est dans l'alignement puis qui joue sur une base régulière à cause des blessés. Donc,
peut-être plus s'écoper un peu, lui.
Et à la fin, c'est sûr, là. Parce que moi, je vais le dire très candidement, là. Dans ma tête, Stone, il va jouer, là. Il va jouer dans la série.
Ben, c'est ça. Puis là, on va glisser un petit peu. On en a parlé beaucoup, Danny, dans nos reportages. La Ligue est pas de bonne humeur. Parce que, il y a une faille dans la convention collective. Puis là, on s'aperçoit que les Golden Knights l'ont encore exploité. Ils seraient bien fous de pas le faire. Parce que la façon dont les règles sont écrites, ils peuvent le faire. On explique rapidement, Les séries vont commencer. S'il y a un autre miracle de la médecine sportive et que Stone apparaît, il n'y a pas de problème. Alors que ce serait bien plus simple si on disait aux équipes, ben, plafond salarial, c'est 86. Ben, ça sera pas plus que 86, même quand les séries vont commencer. Vous pourrez pas faire jouer de joueurs qui vont vous amener à excéder le plafond. Alors là, alors que c'est pas le cas actuellement. Mmh. Mais trouver, pas aller changer ces règles-là, Danny, c'est s'asseoir avec l'association des joueurs, puis renégocier.
C'est un baril de poudre.
Ben, c'est ça. Tu sais, c'est parce que tu vas essayer d'aller renégocier quelque chose. Alors les joueurs vont dire, ouais, mais là, vous aurez pas ça gratuitement, là.
Ouais. Vous aimez pas aussi, ça, cette affaire-là?
Ben, nous autres,
ça
on a
donne
deux,
bien.
Trois affaires. Ben, c'est ça.
C'est des affaires qu'on aime pas.
C'est, alors, les propriétaires vont faire en, ils vont l'oublier, celle-là. Mm. Mais en même temps, tu sais, Danny, les équipes rentrent dedans, puis on sait pas, là, dans 3 ans, 4 ans, là, ça se peut que ce soit Kent Hughes qui fasse la même affaire. S'il est en mesure de le faire, il va le faire.
Il va le faire. Tout le monde utilise tous les leviers.
Ça en prend un. Tu sais, puis celui qui est brillant, là, qui l'a fait le premier, c'est Julien Brisebois.
Ah oh oui. Lui, il a gardé son joueur sur le réchaud, là.
C'est
là,
ça.
Ils peuvent nous dire ce qu'ils veulent, là. Tu sais, c'est correct, là.
Mais donc, Kucherov, il a joué en série. C'est ça.
Et là, je le porte à ton attention, là. Mais là, le Colorado, là, ils viennent de lancer aussi le message. Ils ont dit, ben, Landeskog, normalement, il pourrait jouer en série. On sait pas, là, mais là, il reste encore quelques mois, mais on pense qu'il peut jouer en série. Peut-être pas en première ronde, mais peut-être qu'il peut jouer en série. Mais on va attendre qu'il soit complètement remis de son intervention chirurgicale, ben, qui était quand même... Mais écoute, fait que là, tout le monde envoie le message, avant même que ça commence, que, OK, on a des joueurs qui possiblement peuvent entrer en série, puis on va faire comme tout le monde.
Ben, la convention collective va être longue parce qu'il reste encore plusieurs années. Alors, oui. Habituez-vous. Ça va se faire régulièrement. Tu as parlé de Colorado. Le Colorado avait des problèmes avec le groupe de soutien. Puis là, ils sont allés en chercher des gars de soutien. Trennan, Brandon Duhem. Moi, je l'aime bien, Duhem. Les deux fois que le Canadien a joué contre le Minnesota cette année, on l'a vu. Il dérange. C'est un joueur intéressant. Puis, ils ont payé le gros prix pour Mittelstad. Ils ont donné le jeune Bowen Byram. Byram va faire en sorte que les Sabres vont avoir un top 4 incroyable pour les prochaines années, mais Mittelstad, c'était cher payé, mais l'Avalanche s'est bâti un beau groupe de soutien parce que les vedettes, ils les ont.
Oui, ils ont. Écoute, ça reste quand même encore une très bonne équipe, mais eux autres, ils étaient un petit peu coincés, là. Logan O'Connor s'est blessé, sa saison est terminée, Il était dans une situation où il savait très bien qu'il devait améliorer leur profondeur. Walker à la défense aussi.
Mais c'est un gars important, là.
Oui, non. Ils sont allés chercher Zach Parisey, qui est un vétéran, puis on se dit, bon, ben là, ça amène de la profondeur dans leur alignement. Moi,
un gars qui a du vécu aussi.
Ouais, la seule affaire que je comprends pas, c'est qu'ils sont pas allés chercher un gardien de but de réserve. Moi, écoute, j'étais convaincu que eux, là, ils seraient intéressés par Jake Allen.
Convaincu
que c'est là que Jake se retrouverait.
On les a vus souvent, Danny, à un moment donné, autour du Canadien, puis à une semaine, deux semaines de la date limite, ils venaient presque plus voir les matchs du Canadien.
Ils avaient fait leur vie.
Non, mais peut-être que est-ce qu'ils surveillaient vraiment Allen? Est-ce qu'ils ont peut-être regardé Savard aussi parce qu'ils sont allés chercher Walker? Bon, Walker est un peu différent de Savard, là, mais tu sais, c'est dur à dire. On le saura vraiment jamais. Mais peut-être que les performances moins bonnes de Jake ont carrément refroidi l'Avalanche du Colorado parce que Kent Hughes a dit, contrairement à ce qu'on pensait, on n'a pas eu d'appel sur Jake Allen jusqu'à ce que le New Jersey, à la date limite, se manifeste.
Mm-hmm. J'étais surpris de ça, Martin.
Moi aussi, j'étais
parce
très
que
surpris.
Son nom circulait, puis écoute, honnêtement, on va le dire, là, moi, il y a des dépisteurs qui nous parlent, mais ils nous ont demandé des choses à propos de lui, là, tu sais.
Ouais, puis Edmonton aussi, là, tu sais, puis là, on nomme Colorado, mais, tu sais, dans les équipes qui ont bien travaillé, moi, je pense qu'Edmonton fait partie de ceux-là.
Ben oui.
Tu sais, ils sont allés chercher Adam Henrik, Stetcher, ben, c'est pas un grand défenseur, il est en Arizona, mais lui, si t'as un blessé dans ton top 6 en série, il va jouer, là.
Ben oui, c'est ça, t'sais? Exactement.
Puis ils sont allés chercher Carrick, c'est du papier sablé, là. C'est un gars qui peut jouer, qui se gêne pas pour jouer du hockey robuste, là, et tout ça, un gars de soutien. Les équipes qui devaient s'améliorer devant le filet ne l'ont pas fait, Danny.
Non, écoute, pour moi, là, c'est comme... Là, on ne sait pas ce qu'il y a dans les rangs mineurs. Il y en a qui ont peut-être qui peuvent sortir un lapin du chapeau, là.
Ben, la seule équipe qui avait quelque chose dans les rangs mineurs, c'est la Caroline, Danny.
La Caroline, oui.
Puis Kochetkov, il était plus dans les rangs mineurs vraiment. Il était presque le numéro un de l'équipe.
Il avait déjà joué l'an passé. Non, c'est ben ça. Oui, exactement. Lui, cette année, son nom est répertorié comme un joueur régulier de la Ligue nationale, un gardien, oui. Là. Puis il était le numéro un pendant plusieurs mois, là. Donc, eux, là, la situation avec Anderson qui revient, je comprends, là. Moi, quand j'ai vu Anderson devant le filet l'autre jour contre le Canadien, je me suis dit.
La veille de la date limite, là.
Ouais, là, je me suis dit, OK, eux, là, c'est pour ça que ils ont passé à autre chose, là. Ils l'avaient, leur gardien. Ils savaient qu'il allait revenir, qu'il était capable. Parce que tu sais pas ça, à la dernière minute, si le gars va jouer, là. Tu sais, non, quelques semaines à l'avance.
Puis il était la première étoile du match, Danny.
En plus.
Mettons qu'il l'avait échappé, là. Tu sais, que Anderson montre, là, qu'il est pas là, là. Peut-être que Don Waddell, au lieu d'aller chercher Genzel, aurait mis un peu moins, puis aurait mis un peu plus sur le gardien, mais ça, on ne le saura jamais. On est dans le domaine des si. Mais moi, je partage ton opinion. Quand j'ai vu Anderson partir contre le Canadien jeudi soir dernier, je me dis, OK, eux, ils veulent avoir une réponse.
C'est ça, exactement. Eux autres, là, c'est terminé. Puis parlant de terminé, tu vois qu'il y a des équipes qui ont vraiment... accroché. Tu sais, les autres, là, ils font le minimum, là. Je pense à Pittsburgh, là. On en parlait tout à l'heure en dehors des zones. Oui. C'est vraiment une équipe qui a abandonné, là. C'est eux autres, là. Tu sais, quand t'enlèves une pièce maîtresse comme Genzel.
Qui est rendu en Caroline, là.
Qui est rendu en Caroline, puis que là, tu le remplaces par Bunting. C'est sûr que le 87, là, c'est sûr que lui, Sidney Crosby, il doit des fois... Je pense que Dubus, le directeur général, s'est assis avec et a dit, garde là, voici comment je vais procéder. Puis, tu sais, je suis là pour t'écouter, je t'entends ce que tu as à dire, patati patata. Parce que ça n'a pas de bon sens ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils font, Danny, actuellement, ça n'a pas de sens.
Danny, moi, je permets de douter de ça. Là. Je comprends que toi, tu regardes ça puis tu dis la logique, c'est de faire ça avec un gars comme Crosby. Mais j'en doute. Parce que quelques heures après l'échange de Genzel, Crosby a soulevé des questions sur « mais qu'est-ce qu'ils veulent faire? » Il l'a dit publiquement. Mm-hmm. Puis les Pingouins se sont fait planter deux fois en fin de semaine passée.
Oui,
pas une fois, deux fois.
C'est pour ça que moi je te dis que depuis, d'après moi, il s'est assis avec. Parce que écoute, ton capitaine sort publiquement puis il dit ça, là. T'es mieux de t'asseoir avec. Si tu l'as pas fait encore, fais-le.
Ben, c'est ça. Peut-être qu'il l'avait pas fait. C'est parce qu'il aurait peut-être dû le faire avant de faire l'échange, Genzel.
Ouais, mais
puis
ça,
s'assurer
non.
De l'avoir de son bord.
Non, ça, non. Parce que c'est sûr que si lui, il dit « Hey, je veux échanger Genzel », c'est sûr que Crosby va dire « Ben non, tu peux pas faire ça. tu m'enlèves mon meilleur joueur.
» Ouais,
il est mieux passer après puis récupérer, tu sais, en disant « Ben, regarde, voici où on en est. » Puis là, regarde, c'était... Il essaie de... Mais en fond, ce qu'il dit, c'est « je te rends compte, mais j'ai pas le choix, là, je m'en vais là. »
Dans les équipes qui ont bien travaillé, Danny, moi, j'ai beaucoup aimé ce que les Jets de Winnipeg ont fait.
Oui.
Les Jets de Winnipeg ont envoyé un message très sérieux à leurs partisans. On est là. Ils vont chercher Monahan à Montréal. La transaction a été très bonne parce que depuis que Monahan est avec les Jets, il a rempli, comme il a fait à Montréal... Il a rempli exactement ce à quoi on s'attendait de lui. On est allé chercher Toffoli. Moi, Toffoli, pour moi, là, c'est rendu un mercenaire, là. Tu sais, il est à Montréal. Bon, je veux partir, passer à d'autres choses. Il est à Calgary, ça marche pas, je veux partir, je veux m'en aller. New Jersey, ben là, on tourne en rond, je veux partir aussi. Alors, bon. Mais c'est un bon mercenaire. Par contre, les Jets ont pas beaucoup de défenseurs encore.
Non, c'est assez bizarre parce que je comprends un peu le raisonnement là, puis j'explique rapidement, c'est que parmi les équipes qualifiées dans l'Ouest, les Jets de Winnipeg sont de loin la meilleure équipe défensive. Ils ont accordé 153 ouais. buts. OK, après ça, c'est Los Angeles à 171. Après ça, c'est Vancouver à 178, etc., etc. Mais ils sont aussi parmi les moins bonnes équipes offensivement. En offensive, ils sont bons derniers sur les six. À 193 buts. Donc, c'est sûr qu'eux autres, ils regardent le différentiel plus 40, puis ils se disent, ouais, on est plus 40, là, mais quand ça va arriver en série, puis on a besoin d'un but, ça nous prend des joueurs, là.
Ben
c'est
oui.
beau de bien jouer défensivement, mais on sait que Dallas a du punch en attaque, Colorado a du punch en attaque.
Ils sont comparés Edmonton. À leurs adversaires,
ben
c'est
oui,
ça.
Ben oui, ben oui, exactement. Fait que là, ils savaient qu'il manquait de munitions de ce côté-là. Ouais. À un moment donné, tu peux pas tout avoir, tu te dis, bon, là, on a un choix à faire, on va vers l'offensive.
Et puis, quand on voit ce qu'ils ont fait dans les mois précédents, là, Yafalo, Kupari, Villardi, qui est très solide. Écoute, c'est une équipe qui, le chantier a été impressionnant. Puis les résultats sont là. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se traduire en série pour les Jets de Winnipeg. Ce qui aurait été un gros splash vendredi dernier, Danny, c'est pas arrivé. Parce que le gardien de but, Linus Ullmark, a dit « Je n'irai pas à Los Angeles, je bloque la transaction ». Des gens très sérieux, très bien renseignés habituellement autour de la Ligue nationale, dont Frank Cervalli de Daily Faceoff, ont affirmé que Ullmark avait été échangé aux Kings. Alors les Kings avaient, en tout cas selon eux, colmater leur brèche devant le filet, c'est-à-dire trouver un bon gars pour pousser sur Cam Talbot puis avoir au moins un duo. Ils auraient, toujours selon ces informations-là, échangé Dubois aux Bruins et la transaction a été bloquée. Probablement qu'il y avait une autre équipe là-dedans parce que le salaire de Dubois t'essaie de le rentrer à Boston, là, puis d'après moi, il y avait peut-être d'autres choses qui accompagnaient ça si ça avait été ça, si ça avait été fait. Mais avant de t'entendre, tu sais, des fois, l'histoire nous amène des affaires intéressantes. Mais il y a longtemps, longtemps, avant que les Bruins gagnent leur coupe de 2011, la coupe de Claude Julien puis la coupe de Tim Thomas, pour que les gens se situent dans l'histoire, l'année d'avant, Tim Thomas avait bloqué une transaction.
C'est vrai.
L'envoyant, semble-t-il, chez les Flyers de Philadelphie, il avait exercé sa clause pour rester à Boston. Alors, si l'histoire se confirme, c'est la deuxième fois que ça arrive. On sait que le gars à Boston, ça va être Swayman. Mais les Bruins auraient fait un tabarouette de bon coup. Parce que là, Dubois tend à avoir la réputation du désagréable, mais ça reste un bon joueur.
Ouais, ben écoute, c'est un très bon joueur, mais les Bruins de Boston, c'est une organisation que je trouve travaille très bien, puis leur chambre est en santé. Leur vestiaire est en santé, puis c'est important. Donc, eux, d'entrer un joueur qui a peut-être la réputation de pas toujours cadrer avec le reste du groupe, probablement qu'ils se sentaient à l'aise de faire une transaction comme celle-là. Ouais. Puis une chose est sûre, c'est que Ullmark s'est terminé après cette année. C'est sûr que lui, je peux pas croire qu'il a refusé une opportunité
moi non plus.
D'être le numéro un. Parce que dans le cas de Thomas, c'était différent parce qu'il était déjà numéro un. Là.
C'est ça.
Mais eux, là-bas, c'était comme il y avait une dualité là, parce que t'avais deux gardiens. Puis là,
ouais, mais Thomas, c'est parce que aussi, c'était comme
un gros de bébite.
Ouais, ben c'est ça, c'était c'était un gars assez unique en son genre là. Mm. Puis probablement que lui il a dit je vois pas à Philadelphie, ça m'intéresse pas d'aller là.
Ouais,
c'est bon, il y a beaucoup de gens aussi qui ont prétexté que c'était en raison de ses parents qui avaient besoin de soins à ce moment-là, mais bon, tu sais ça reste que le gars était c'était un peu plus prévisible que Thomas réagisse comme ça. que Linus. Mais ça va être intéressant de voir où ça va mener les Kings sans gardien de but. Je termine rapidement, Danny. Il y a deux clubs qui m'ont intrigué à la date limite des échanges. Tampa, ils ont tout essayé. Ils étaient dans le dossier Gensel, ils ont pris Duclair. Il y avait pas beaucoup de marge de manœuvre. Mais Détroit, qui se bat pour les séries, fait pas grand-chose. Vancouver, je pense qu'ils ont essayé très fort, mais peut-être que ça coûtait des jeunes qui veulent pas laisser aller. Ça va être intéressant de voir ce que deviendra Détroit dans la course aux séries et éventuellement en série, et comment Vancouver va se comporter à la première ronde des séries.
Ouais, ben moi je veux quand même t'amener les Islanders, parce que les Islanders sont au cœur de la course, ils ont fait zéro eux autres aussi.
Ouais, mais là, ils l'ont fait avant, ils sont allés chercher Patrick.
Ben oui, je sais bien, mais tu sais, au niveau de l'alignement, ils n'ont rien changé à leur alignement.
Ouais.
Mais pourtant, c'est une des bonnes équipes dans l'Est, en tout cas à ce point-ci. Là, ils sont sur vraiment une vitesse de croisière avec cette victoire dans leurs 10 derniers matchs. Tu sais, des fois, c'est embêtant parce que tu as confiance en ce que tu as sous la main. Les joueurs peuvent le percevoir comme un bon message aussi, là. Faut jamais perdre de vue que si tu fais pas de transaction, puis tu parles à tes joueurs, ouais, pour leur dire que nous, on a confiance au groupe qu'on a sous la main, on pense pas qu'on a besoin de s'améliorer. Tu sais, les réponses sont dans le vestiaire. Les joueurs répondent à ça aussi. Je pense que ça, faut pas perdre
puis,
ça de vue.
Puis des fois, c'est la phrase que tu sers aux médias pour leur dire que c'était ça que tu voulais faire, mais la vraie vie, c'est que t'as passé 4-5 jours au téléphone sans arrêt, puis t'as pas été capable de faire ce que tu voulais faire.
Ben alors, oui, mais tu sais, Martin, je t'interromps pour te dire que quand même, ça enlève rien à ce que je viens de dire, dans le sens
non,
je comprends. Le gars, il essaie de faire une transaction, il cherche la pièce manquante dans le casse-tête.
Ouais.
Il se dit, si je la trouve pas, je vais pas tout défaire par rapport à cette pièce-là. Je pense que tel gars peut compenser. Tu sais, t'as toujours des scénarios A, B, C, là. Tu dis, ça, c'est mon scénario A, c'est je suis capable de mettre la main sur ce gars-là.
Ouais.
B, c'est peut-être, c'est peut-être lui, c'est la deuxième option.
Ben,
sinon, on a quelqu'un dans l'alignement qui est peut-être pas au niveau de ces gars-là, mais on a confiance.
Qui peut faire. Tampa Bay, pour conclure, Danny, là, Tampa Bay, c'est exactement ça. Le plan A, c'était Gensel. Ils sont pas parvenus à réunir les ressources pour satisfaire aux exigences des Pingouins. Alors, ça a été Duclair qui est un ailier offensif, qui va amener moins que Gensel, mais Julien Brisebois a pu se tourner vers Duclair, qui va peut-être leur amener quelque chose pour
c'est
au
sûr.
Moins. Le Lightning, faut qu'il se qualifie en série avant de parler des séries. Ça, c'est pas fait encore.
C'est un gros joueur. Anthony, c'est un gros joueur. Il est capable.
Oui.
Moi, je pense qu'à court terme, sa réputation, c'est des fois, elle va s'endormir un peu, comme certains autres joueurs. Là. Il est pas le seul comme ça. Là.
Non.
Au moment où il atteint sa zone de confort, il ralentit un peu, mais si on sur une courte période, puis je pense que lui a besoin aussi de se repositionner pour la suite. Moi, j'ai bien confiance que ça va être une bonne acquisition.
Danny, merci beaucoup. Un gros merci également à Martin Plamondon et Pierre Gervais, qui sont de fidèles collaborateurs à ce balado. C'était le 15e épisode de Bon Match. On se reparle très bientôt. Au revoir.
Bon Match!